Je vous propose de prendre un texte très connu dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 28, et nous lirons à partir du verset 18, se situe avant l'ascension du Seigneur. Ce sont les dernières paroles que le Maître va dire à ses disciples. Cela peut faire partie d'une forme de testament, bien que le Seigneur soit mort et qu'il soit ressuscité. Donc, Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 18. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Et on croit que ce matin, Jésus s'approche de nous et nous parle ainsi. C'est la parole du Seigneur qui est ouverte. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est assurant, c'est rassurant, hein ? Tout pouvoir. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Durant ces 3 ans et demi, le Seigneur Jésus a établi des hommes, a envoyé des hommes. Durant ces 3 ans et demi, il a établi, envoyé les disciples de village en village, sans bourse, sans aucun moyen, afin d'annoncer la venue du royaume de Dieu. Ensuite, il a envoyé les 70, des illustres anonymes, des illustres inconnus, afin d'accomplir la même mission. Et tout cela a été encadré avec cet ordre de se consacrer exclusivement à la maison, eh bien, à la maison d'Israël. Dans un premier temps, l'Évangile a été l'apanage, a été l'exclusivité du peuple d'Israël, du peuple de Dieu, afin que ceci ait le privilège, eh bien, de l'entendre, eh bien, en premier. Pendant 3 ans et demi, l'annonce du royaume de Dieu a été exclusivement, ou quasiment à quelques exceptions près, eh bien, consacrée au peuple d'Israël et aux enfants d'Israël. Là, alors qu'il va rejoindre le Père dans la gloire céleste, alors qu'il donne ses dernières consignes, eh bien, le maître de la moisson, Seigneur Jésus, donne cet ordre, donne ce commandement aux disciples, le donne aux apôtres. Et je dirais que cet ordre a plusieurs niveaux. Premièrement, on s'aperçoit que c'est un impératif. Allez. C'est toujours bon de le signaler. Allez. Ce n'est pas quelque chose qui est optionnel. Ce n'est pas quelque chose qui est soumis à notre volonté ou soumis aux conditions. Mais l'ordre du Seigneur, il est clair. Allez. Il ne dit pas « allez si vous êtes en forme ». Il ne dit pas « allez si vous avez le moral ». Il ne dit pas « allez si vous le souhaitez ». Il ne dit pas « allez si eh bien, c'est dans votre fibre, si c'est dans votre caractère ». Mais le Seigneur dit tout simplement, sous la forme impérative, « allez ». Allez eh bien, par tout le monde, allez jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça nous fait penser quelque part à ce verset du livre de l'Ecclésiaste qui dit que celui qui regarde au vent ne sème jamais. Et donc il ne récoltera pas non plus. Et je crois que eh bien, cet ordre doit être gravé dans nos cœurs, parce que si le Seigneur Jésus l'a donné il y a 21 siècles à ses disciples, cet ordre reste et demeure d'actualité. Nous avons toujours vocation à aller, à sortir de notre salière, nous qui sommes le sel de la terre, afin eh bien, d'entrer dans cette mission que le Maître nous a confiée. C'est le top départ. Il leur a également dit, mais avant d'aller, allez dans cette, attendez l'accomplissement de la promesse. Chose qui va se manifester au travers eh bien, du baptême par le Saint-Esprit, de ces langues de feu qui vont se poser sur les disciples dans la chambre haute. C'est là que l'Église, c'est l'acte de naissance de l'Église. Allez, que l'Église aille, remplie du Saint-Esprit. Le top départ est donné. Une fois que le Saint-Esprit est descendu, la vision est donnée, la vision est communiquée. Les disciples vont aller. Il y a un timing avec Jésus. J'aime bien me dire ça. Pendant quelque temps, le Seigneur peut nous dire « attends ». Et puis, il arrive un moment où il nous dit « va ». Il y a des chrétiens qui passent leur temps à attendre. On peut passer notre temps à attendre en se disant « je ne suis pas ci, je ne suis pas ça ». Mais là, la promesse est venue. Le Saint-Esprit a été répandu. Il est de notre devoir de rentrer dans ce timing divin. Va, mon frère, va, ma sœur, va vers toutes les nations. Faites de toutes les nations des disciples. Il dira dans le livre, l'évangéliste Luc, lorsqu'il écrira les Actes des apôtres, dira que Jésus leur a demandé d'être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Toutes les nations. L'exclusivité est levée. Ça y est, l'ordre est donné. Toutes les nations doivent bénéficier de l'annonce de la grâce, de l'amour qu'il y a en Jésus. Tous les hommes, toutes les femmes, blancs, noirs, jaunes, rouges, peu importe, que ce soit des hommes, des femmes, des riches, des pauvres, peu importe, tous ont accès à la même grâce, tous ont accès au même salut, tous ont accès à l'œuvre de la croix, tous. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et là, toutes les nations, pour en faire quoi ? Des disciples. Non pas des adhérents, mais en faire des disciples. Baptisez-les et faites-en des disciples. Pendant un temps, l'Église universelle, c'est-à-dire catholique, l'Église de base issue des Actes des Apôtres, a voulu convertir de force. Au temps de saint Augustin, par exemple, il utilisait ce texte de la parabole, de Jésus, lorsque le maître dit « Forcez, allez chercher les gens qui sont dans les fossés, etc. et forcez-les à rentrer. Forcez-les à rentrer. » Ce n'est pas ça que Jésus veut. Ce que Jésus veut, c'est qu'il y ait véritablement, non pas une adhésion à une religion, mais une conversion, une nouvelle naissance, suivie de la croissance spirituelle qui fera de ces nouveaux-nés des disciples. Donc, l'ordre qui est donné, ce n'est pas simplement que les hommes et les femmes se convertissent, mais l'ordre qui est donné, c'est que ces hommes et ces femmes qui se convertiront deviennent des disciples de Jésus. C'est-à-dire deviennent profondément semblables au Maître. Mais, voyez-vous, les disciples, ils étaient élevés dans une certaine forme d'éducation. La loi leur avait toujours enseigné qu'il était interdit de se mélanger avec d'autres peuples. La loi leur avait toujours dit que, lorsqu'ils devaient rentrer dans le pays de Canaan, par exemple, ils devaient tuer toutes les autres nations, passer par le fil de l'épée, ceux qui y habitaient, de manière à ne pas être tentés de succomber à leur idolâtrie. Et l'ordre avait été donné clairement. Et là, tout d'un coup, Jésus leur dit: allez jusqu'aux extrémités de la terre, mélangez-vous, allez annoncer l'évangile, allez annoncer la bonne nouvelle. Mais je pense qu'on aurait fait à peu près la même chose. L'Église primitive a commencé à s'encrouter un petit peu à Jérusalem. Déjà, une Église qui s'encroute à Jérusalem, elle était en pleine croissance, elle était véritablement, elle était totalement dopée, c'est-à-dire que c'était une Église qui allait de l'avant. Le Saint-Esprit ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés, il y avait des miracles, des guérisons, etc. Mais petit à petit, cet ordre est oublié, cet ordre est occulté. Et hormis la Samarie, où Philippe l'évangéliste va faire un certain travail, quelque part, cette vision est quelque peu oubliée. La culture reprend le dessus. J'allais dire que l'enseignement de la loi reprend le dessus. Et la question que je me suis posée est la suivante, pour notre Église, pour nous-mêmes. Où est cet ordre ? Où est cette vision ? D'aller. Est-ce que des choses auraient repris le dessus ? Lorsque l'on se convertit, c'est étrange, avec la facilité que l'on a, de pouvoir témoigner, de pouvoir apporter la bonne nouvelle. Et puis, un petit peu comme l'Église primitive, on reste à Jérusalem. On reste à Jérusalem, on s'assoit sur notre chaise, on est spectateur des œuvres du Saint-Esprit, on s'y fait du bien, on voit des miracles, des guérisons, des choses extraordinaires. Mais quelque part, notre vision est fermée. Où est cet ordre ? Allez. Alors, que va-t-il se passer ? Il va venir une persécution suite à la lapidation d'Étienne. L'Église qui est en train de se structurer va imploser ou exploser, et les chrétiens nouvellement convertis vont partir dans toutes les contrées, et avec eux, le message de l'Évangile va partir. Et là, à leurs voisins, ils vont parler de Jésus, etc., et c'est comme ça que l'Évangile... Mais ce qui a dynamité finalement, ce qui a causé l'essor de la mission, ou la naissance de la mission, ça, on n'en est qu'à l'introduction, c'est eh bien, cette persécution. Dieu accomplit son plan. Et parfois, il nous donne un petit coup de manière à nous faire rentrer dans son plan. Et puis, l'Église a grandi, des églises se sont petit à petit implantées, et à Antioche, d'abord, pardon, il va y avoir cette vision de l'apôtre Pierre, acte 10, alors qu'il est chez Corneille. Alors, avant qu'il aille chez Corneille, pardon, il est chez un tanneur, ce qui est pour un hébreu quelque chose, déjà une petite révolution, et puis il va avoir cette nappe, tenue aux quatre coins, avec, et il va entendre cet ordre. Tue et mange. Je n'ai jamais rien mangé d'impur, conformément à ce qui m'a été enseigné. Je n'ai jamais rien mangé d'impur. Et nous connaissons la suite. On va venir le chercher, il va aller chez Corneille, cet homme pieux. Cet homme va être rempli du Saint-Esprit, baptisé. Et Pierre va aller faire son rapport. Et que vont dire ses collègues? Pierre a dû se prendre une avoine et carabinée. À la fin du chapitre, il est dit qu'ils se calmèrent. L'apôtre Jacques, qui était patron de l'église de Jérusalem, était un homme connu pour sa rigueur, quelquefois sa dureté. D'ailleurs, dans son épître, on voit que Jacques est très clair hein, lorsqu'il parle. Et ça a dû barder pour Pierre. Mais lorsqu'ils ont entendu eh bien, que le Saint-Esprit s'était posé eh bien, sur Corneille et sur sa maison, alors, eh bien, ils se sont calmés. Et puis, dans l'église d'Antioche, alors que l'église est en train de jeûner, de prier, c'est bon de jeûner, est en train de jeûner et de prier, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas. C'est le Saint-Esprit qui le dit et qui choisit des hommes. Et là, l'évangile va commencer à se structurer. Ça va partir d'une église. C'est amusant de se dire que ce sont des initiatives individuelles suite à la persécution qui ont commencé à générer les premières formes de mission. Parfois, nous, les églises, on est très structurés, puis on est dépassés par l'action de l'Esprit de Dieu. Les structures explosent. Et ensuite, l'Église est rentrée dans cette vision-là. Alors, où est-ce que je veux en venir? Parce que j'ai bien une idée à la tête, après ce court panorama. On voit que la volonté du Seigneur, c'est que son évangile soit annoncé aux quatre coins de la terre. Que partout, eh bien, la gloire de Dieu soit prêchée. Que partout, la gloire de Dieu soit annoncée. Et la question, c'est de se demander, ok, mais pour l'église du Pontreau, en quoi cela est important? Comment et pourquoi? Bien sûr, on obéit à l'ordre de Dieu. Mais lorsque Dieu nous donne des ordres, lorsque Dieu nous donne des conseils, c'est qu'il y a toujours des raisons derrière. Première chose, comme je l'ai noté, c'est que la volonté de Dieu est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Tous. Il n'y a pas que nos familles et il n'y a pas que ceux que nous aimons. Mais le panorama est bien plus large. La notion d'enfer est une notion universelle. La notion de mort éternelle est une notion universelle. On y reviendra. La deuxième chose, je pense qu'il est important que nous la vivions, et pour cela, il faut bien se rappeler d'une chose, c'est qu'il existe deux types d'églises, ou deux définitions de l'église. La première, c'est l'église locale, la nôtre, celle que l'on aime, celle que l'on chérit, celle que l'on connaît. On en connaît tous les recoins, on en connaît les qualités, puis on en connaît les défauts, mais on l'aime bien quand même. Finalement, c'est la nôtre, et on y est attaché. On l'a vu naître pour certains, on l'a vu souffrir pour d'autres, on l'a vu fleurir, etc., peu importe. Mais on l'aime, c'est comme ça. Mais il y a une seconde dimension, c'est ce qu'on appelle l'Église universelle, qui se situe aussi bien dans la géographie, c'est-à-dire partout dans le monde, et cette Église universelle est composée des différentes églises locales qu'il peut y avoir partout dans le monde, mais également dans le temps. Elle est composée de ceux et celles qui nous ont précédés et de ceux et celles qui nous suivront. Bref, pour nous, bien souvent, notre vision est complètement à l'étroit. On se dit que il y a nous et puis des choses autour. Il y a nous et d'autres églises autour. Mais cette vision est extrêmement limitative, parce qu'en réalité, il y a nous, mais il y a des frères et sœurs qui sont à l'autre bout du monde. Il y a des frères et sœurs qui nous ont précédés, il y a des frères et sœurs qui nous suivront. Et nous formons un seul corps. Nous formons, c'est là l'ensemble du corps de Christ. Réduire le corps de Christ à notre simple église locale serait quelque part faux ou tronqué. Bien sûr que nous en faisons partie, bien sûr que nous en avons les caractéristiques. Mais ce corps, il est formé de nos frères et sœurs qui sont persécutés en Inde. Ce corps, il est formé des églises qui sont situées en Afrique noire. Ce corps, il est formé des églises qui sont situées en Asie. Il est formé par l'église souterraine. Nous sommes un corps. Et nous devons le voir ainsi. Et de la même manière que nous aimons nos frères dans la chair lorsqu'ils sont éloignés, nos frères spirituels, quelque part, nous devons les porter dans notre cœur. Nous sommes un corps, et le principe de solidarité avec cette église universelle géographique doit jouer à plein. L'apôtre Paul écrira que si quelqu'un souffre, si un membre du corps souffre, alors tous les membres souffrent avec lui. Nous souffrons avec l'église persécutée, nous prions pour elle. Et nous nous réjouissons pour ce qui peut se passer en Amérique du Sud, avec un réveil spectaculaire et des hommes et des femmes qui, par milliers, se donnent au Seigneur Jésus. Bref, il est nécessaire que nous développions notre système nerveux et qu'il ne soit pas simplement cantonné à l'église locale, bien qu'il doive exister au niveau de l'église locale, mais que dans nos prières, dans nos préoccupations, dans nos priorités peut-être, nous puissions nous souvenir que l'Évangile court avec vitesse et que, aux quatre coins du monde, des hommes et des femmes entendent la parole de Dieu. Que nos prières ont du poids, que nos prières ont un impact. J'aime beaucoup ce passage, alors que le peuple d'Israël est en train de combattre. L'ordre de Dieu a été donné à Moïse, tant que tes mains resteront levées, alors le peuple avancera. Quand tes mains s'abaisseront, alors, le peuple reculera. Aaron et Hur, voyant Moïse, fatigués, vont l'asseoir sur un rocher et vont soutenir ses bras afin que la victoire soit remportée. Quelle belle image! Nos prières soutiennent. Notre cœur soutient. Et je crois que c'est une richesse spirituelle profonde qu'une église qui donne. Et c'est le troisième point. On est, je le dis souvent, mais c'est très vrai, nous sommes dans une société extrêmement égocentrique. Et je trouve que c'est même une tendance qui va crescendo. Où finalement, ce qui compte, c'est nous et notre cercle. Après, peu importe ce qui peut se passer autour, tant que ça n'a pas de répercussions sur ce que nous aimons. C'est très schématique ce que je dis. C'est pas pour nous, c'est pour à l'extérieur. Ici, on n'a pas ce problème-là, mais je le dis pour que vous puissiez en parler. Et à partir de ce moment-là, on vit en vase clos, avec des murs qui sont dressés, des murs qui sont établis. On se regarde et on vit les uns avec les autres au travers d'une plaque de plexiglas. On se voit sans jamais véritablement se toucher. On sait que l'autre existe, mais ça n'a pas de répercussion sur notre cœur. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Éphésiens, il dira la chose suivante, qu'il prie afin que les Éphésiens soient fondés et enracinés dans l'amour de Dieu et qu'ils comprennent les dimensions de l'amour de Dieu, qui est long, c'est-à-dire qui dure d'éternité en éternité, qui est large, c'est-à-dire qui englobe tous les hommes, qui est profond, c'est-à-dire qu'il va chercher tous les hommes, et qui est haut, parce qu'il est situé, il trouve sa source dans le ciel. Et je crois que, frères et sœurs, il est nécessaire que nous développions, cet amour qui est haut, large, profond, à l'image de l'amour de notre Dieu. Parce qu'à partir du moment où nous nous centrons sur nous-mêmes, quelque part, nous ne sommes pas renouvelés. Nous le savons, à celui qui donne, il sera donné, mais à celui qui retient, il sera ôté, même ce qu'il a. Celui qui arrose, sera arrosé. Et notre cœur a vocation à être tourné vers les autres. si nous ne voulons pas qu'il s'atrophie. Un cœur, c'est un muscle, il doit fonctionner. Ayons un cœur. Demandons au Saint-Esprit de nous donner ce cœur qui s'ouvre aux besoins de ceux qui sont à nos côtés, mais également aux besoins de ceux qui sont plus loin. Le Saint-Esprit a choisi Paul et Barnabas afin d'initier le mouvement ou de concrétiser le mouvement qui s'était initié. Le Saint-Esprit veut encore des hommes et des femmes aujourd'hui qui s'engagent dans ce domaine en disant « Seigneur, j'aime beaucoup mon église locale, je prie pour elle, je prie pour ses besoins, j'aime beaucoup ma famille, je prie pour elle, je prie pour ses besoins, j'aime beaucoup mon mari, je prie pour lui, j'aime beaucoup ma femme, etc. Mais Seigneur, je désire un cœur plus grand. Je désire un cœur plus grand. Je désire soutenir ton corps. Je désire soutenir ton église universelle. » Et vous verrez, il se passe quelque chose d'extraordinaire dans ces cas-là. Ça coule. Toutes les choses qui sont stockées en nous s'en vont. Un jour, un de mes formateurs m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, tu sais, Olivier, si tu veux que ton ministère soit heureux, fais de l'évangélisation. Parce que à partir du moment où tu n'en feras pas, eh bien tu seras baigné dans tous les problèmes de l'Église et ton cœur s'aigrira. Et je crois sincèrement qu'il avait raison. À partir du moment où... Et mon père me disait également la chose suivante, il me disait, quand l'évangélisation va, tout va. Et à partir du moment où on se recentre sur nos problèmes, à partir du moment où on n'ouvre pas les vannes, où on ne pense pas à ce que le Saint-Esprit fait, où on ne se laisse pas finalement utiliser par le Saint-Esprit, où on n'ouvre pas notre cœur, où on n'arrose pas, qu'est-ce qui se passe? Tout s'accumule. On remarque que la forme change, les tenues changent. On remarque toutes sortes de choses. Et on en oublie. On en oublie l'essentiel. L'amertume se met dans notre cœur, la rancœur se met dans notre cœur, l'incompréhension se met dans notre cœur. Pourquoi ? Parce que les vannes ne sont pas ouvertes. Dans un vase de fleurs, vous remarquerez, quand vous enlevez les fleurs et que vous le nettoyez, il y a plein de saletés à l'intérieur. Parce que l'eau n'a pas circulé. Une église qui n'évangélise pas, je dirais même un chrétien qui n'évangélise pas, il y a un pasteur qui n'évangélise pas. C'est-à-dire qu'il ne sort pas de sa bulle. Ça s'accumule. Ça s'accumule. On a le privilège, et je vous dis tout, d'être une église jeune. Jeune dans la foi, finalement. Ça a des avantages et des inconvénients. Et ça a un avantage, c'est que les problèmes n'ont pas encore eu le temps de stagner. Parce que dans certaines églises anciennes, quand des pasteurs les prennent, quand on y arrive, et qu'il y a des problèmes qui sont vieux de 30 ans, c'est même plus un souffle de Dieu qu'il faut, c'est une tempête de Dieu. C'est une tempête de Dieu. Parce que les choses se sont accumulées, ont complètement stagné, sont complètement au fond, c'est plus du dépôt, c'est de la boue. Dans nos cœurs, c'est pareil. Dans l'église, c'est pareil. S'il n'y a pas une ouverture, alors ça stagne. Il y a du dépôt. Puis, un autre point, et on le trouve dans le livre du prophète Ésaïe, promis, après je conclue. Ésaïe, chapitre 54, verset 2. « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie l'étoile de tes demeures. Ne les ménage pas ou ne les retiens pas. » Les deux versions sont possibles. « Allonge tes cordages et affermis tes piquets. » Élargi. On peut parler physiquement, mais également au niveau de son cœur. Élargis ton cœur. Élargis ta vision. Élargis ta manière de voir les choses. Oui, tu as des problèmes avec tes enfants. Oui, tu as des problèmes avec ton mari. Oui, tu as des problèmes d'un professionnel. Oui, tu as des problèmes avec ton pasteur. Il est pénible. Élargis ta vision. Pense à ceux qui ont besoin de tes prières. Pense à ceux et celles qui, finalement, ont besoin de la grâce de Dieu. Pense, élargis ton cœur, élargis ta vision. Ne reste pas cantonné dans tes petites habitudes, dans tes petites prières, dans ta petite piété, dans ta petite religiosité. Élargis. Il y a des choses qui se passent ailleurs. Il y a des choses qui se passent à côté de tes soucis. Il y a des choses qui se passent à côté de tes problèmes. Il y a des choses qui se passent à côté de ta petite vie. Et à côté de ma petite vie aussi. Élargis. Ouvre les yeux. Enlève tes œillères. Vous savez à qui on met des œillères? Aux chevaux ou aux ânes, pour qu'ils évitent de regarder à droite ou à gauche et qu'ils se focalisent sur l'objectif. Enlève tes œillères. Non que tu sois un âne. C'est pas du tout ça. Je ne me serais pas permis. Je l'ai pas dit exprès du tout. Du tout. C'est pas mon style de provoquer. Allez, enlève. Il se passe des choses à côté. Le Saint-Esprit veut faire des choses à côté. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Élargis. Élargis l'espace de ta tente. Je passe rapidement. Allonge tes cordages et affermis tes piquets. Et ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'un agrandissement, mais ça nous parle également d'une stabilité plus grande. Plus la base est large, et plus la construction est solide. Vous avez certainement tous fait ça, entasser des choses les unes sur les autres, hein, et veiller à ce qu'elles ne tombent pas. Pour monter haut, quel est le secret? Il faut construire large. Pour que ma vie spirituelle soit solide, il faut que je construise large. Si je ne la centre que sur une toute petite chose, une faible quantité de choses, une faible quantité d'objectifs, alors je ne monterai pas forcément très haut. Élargis. Non seulement ça t'apportera un renouvellement, non seulement tu rentreras dans le plan de Dieu, tu accompliras la volonté de Dieu, mais en plus tu gagneras en stabilité pour ta vie. En conclusion, deux points pour résumer ce qui a été dit. Comment entendront-ils si personne ne leur annonce? S'il n'y a pas de prédicateur qui se lève. On s'aperçoit dans l'église d'Antioche que c'est l'église qui envoie Paul et Barnabas. J'aime bien l'expression, il les laisse repartir. Un petit peu à contre-cœur, je pense qu'une église se sépare souvent à contre-cœur. Il les laisse repartir. À contre-cœur mais joyeux. Il les laisse repartir. C'est l'église qui envoie. Et ceux et celles qui sont partis au loin, ils font partie de nous. C'est l'Église qui les a envoyés. On est avec eux. Ils ont une place dans notre cœur. Ils ont une place dans nos pensées. Ils ont une place dans nos prières. Ils sont importants. Deuxièmement, ce n'est pas on le fait pour eux, on le fait pour l'œuvre de Dieu. Afin de hâter son retour. Mais on le fait également pour nous. Frères et sœurs, élargissons. Ne ménage pas tes piquets. Ne retiens pas. Ne retiens pas. Ne te ménage pas. Ne te ménage pas. Ne retiens rien. Et j'aimerais conclure sur cette parole. Ne retiens rien. Ne retiens rien par peur, ne retiens bien rien par égoïsme. Ne retiens peur rien parce que tu es fatigué. Ne retiens rien. Ce que tu as reçu, donne-le. Les talents que tu as reçus, investis-les. Le temps que le Seigneur te donne, consacre-le. Ne retiens rien.
Peuple, du temps du prophète Malachie, retenez les choses. Et l'Éternel dira, si simplement vous faisiez ma volonté, vous verriez si je ne fais pas, si je n'ouvrirais pas les écluses des cieux. Si vous m'offriez réellement eh bien, des bêtes en bonne santé, plutôt que des animaux malades, vous verriez si je n'ouvre pas, si je n'ouvrirais pas. Si je n'ouvrirais pas les écluses des cieux. Ne retiens pas. Ne retiens pas ta main. Sors. Investis. Bats-toi pour l'œuvre de Dieu. Et je conclurai par Marc chapitre 16, verset 16. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur sera fait aucun mal. Ils parleront d'autres langues. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici les signes qui accompagneront. Si tu avances dans cette voie-là et que tu fais ce pas de la foi, cette démonstration de la foi, et que tu ne retiens pas, tu verras ces choses-là. Parce que Dieu reste et parce que Dieu demeure fidèle. L'évangélisation, le miracle, j'allais dire, sont réservés, sont favorisés pour l'évangélisation, par l'évangélisation. Que son nom soit béni. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen.